Vous écoutez
RMC.
RMC.
Moi, je pense qu'on n'a plus des grands artistes. Il n'y a plus de Salvador Dali. Il n'y a plus de Andy Warhol. Je pense que les footballeurs aujourd'hui, c'est les grands artistes de cette société.
Non, mais j'ai peut-être dansé sur Coldplay, mais je ne devais pas être agent.
Il ne faut pas attendre.
Toujours 0-0 dans cette finale de la Ligue des Champions. Ça va être tiré de la droite vers la grosse.
C'est con, il a tout loupé. Il a tout loupé. Mais non, pas toi, Julien.
Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec les quatre rôles de dames, Julien Laurence, Paulo Breitner, Edgar Grolo, Daniel Manoussia. On est ensemble jusqu'à 22h, vous le savez. Alors on termine sur le mercato, car il se passe beaucoup de choses. Hein. C'est de l'actualité et pas forcément des projections. Arne Slot, c'est terminé aussi, Julien. C'est une des infos du week-end importante. Certains pensaient qu'il allait quand même rester, malgré sa saison ratée à la cinquième place, terminée à la cinquième place de Première Ligue. C'est terminé pour lui. Le successeur, en revanche, n'est pas connu officiellement, Julien. Iraola est le grand favori, bien sûr.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que les négociations ont commencé déjà avec Anthony Iraola et ça, je ne vois pas pourquoi ça se ferait pas. Arne Slot, limogé, ça fait plusieurs semaines maintenant que je disais que je ne comprenais même pas pourquoi il était encore au club et pourquoi il allait rester la saison prochaine quand on nous disait que qu'il allait rester. J'ai pas trop compris, je comprenais pas, je l'avais déjà expliqué. Pour moi, c'était récompenser la médiocrité que de le laisser en place. Je comprends très bien qu'il avait gagné le titre de champion sur sa première saison. On va pas non plus revenir sur sur le contexte de cette saison-là, notamment l'après Klopp et le fait qu'il y avait eu aucune recrue l'été où Slot arrive en fait. Donc c'était encore vraiment l'équipe de Klopp. Et pour moi, à part aller jusqu'au mois de janvier, ça tout allait très bien. Et à partir de janvier, le reste, tout s'est compliqué en fait. Donc pourquoi garder quelqu'un comme entraîneur quand il a finalement réussi 6 mois sur 2 ans? Pour moi, ça n'avait aucun sens. Et je suis content sincèrement, pas simplement parce que ça va dans le sens de ce que je disais dans l'émission depuis maintenant plusieurs semaines, et parce que je trouve que Liverpool a pris la bonne décision.
Voilà, Henri Vincent et Iraola qui devrait arriver également. Ça peut matcher. Iraola, bon, qui a réussi avec Bournemouth, bien sûr, entraîneur en vogue. Tu vois le mariage réussi, toi, a priori?
Alors moi, je pense que c'est un très bon coach qui va devenir un très grand coach quand il sera dans un grand club, ce qui va être le cas là. Il aura peut-être besoin d'un petit peu de temps pour se familiariser aussi avec l'environnement, ne serait-ce que la pression déjà, parce qu'à Bournemouth, comme au Rayo avant qu'il vienne en Angleterre, la pression, ça n'existait pas pour lui. Il n'y avait pas vraiment d'attente ou quoi que ce soit dans des clubs comme ça. Là, en revanche, à Liverpool, c'est chaque match que tu dois gagner. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec Bournemouth ou le Rayo Vallecano. Donc, ce sera à lui de s'adapter très vite en termes d'état d'esprit. Il est beaucoup plus proche de Klopp que Slot ne l'aurait jamais été, déjà. Quand tu penses que la saison dernière, le Liverpool sous Slot avait couru moins que l'adversaire dans 90% de ses rencontres, pour une équipe comme Liverpool dans un club pareil, c'est inadmissible et inacceptable. Ce ne sera pas le cas avec Iraola. En revanche, il y a toujours le même problème de qu'est-ce qu'on fait avec Wirtz, Isak et Kitike quand il reviendra. Comment on remplace ça là? Donc, et le recrutement de cet été va être très important, et surtout ses premières décisions à lui sur comment organiser cette équipe-là. On sait qu'il a l'habitude de jouer en 4-2-3-1, c'était le cas à Bournemouth, je vois pas pourquoi il va changer maintenant. Mais où est-ce que tu mets toutes ces pièces-là du puzzle dans son puzzle à lui? Ce sera très intéressant à voir.
Bon, l'incompréhension évidemment, c'est le Xabi Alonso qui n'est pas entraîneur de Liverpool cette saison prochaine. C'est joué à quelques jours près. Est-ce que ça aurait été possible si le timing avait été différent, si Slot avait déjà été évincé il y a 2 semaines avant même la fin du championnat, en tout cas annoncé comme tel? Ça on saura jamais, Julien. Sincèrement, Xabi Alonso serait venu et si Liverpool l'aurait choisi aujourd'hui réellement, quoi. C'est ça.
Non, mais on en saura sûrement lors de la première conférence de presse, de Xabi Alonso comme entraîneur de Chelsea, parce qu'on va forcément lui poser la question.
Il répondra ce qu'il voudra, bien sûr.
Oui, bien sûr, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a eu un problème de timing. Tu l'as très bien dit, Nico. Je pense que le procédé du limogeage de Slot qui part du club de Liverpool avec Richard Hughes et Michael Edwards qui sont en charge du sportif, on va dire, entre guillemets, pour simplifier, doit ensuite aller aux États-Unis chez les propriétaires de FSG avec Mike Gordon. Et donc, il y a aussi beaucoup de gens qui décident et ça prend du temps et c'est un peu compliqué et tout ça. Et je me demande si c'est pas un petit peu ça qui a fait aussi que, à un moment, tu devais laisser Slot en place pour absolument accrocher le top 5. Tu l'as fait. Et puis après, ça a pris un petit peu de temps et donc, forcément, tu as raté Xabi Alonso, qui lui, rappelez-vous, avait déjà été annoncé par Chelsea alors que la saison n'était pas encore terminée. Ce que Liverpool n'aurait pas pu faire, vraiment. Ça aurait, t'aurait risqué de mettre en péril la fin de saison et le fait que de ne pas accrocher la Ligue des Champions, peut-être. Donc, il y a tout ça qui fait que ils ont peut-être raté Xabi Alonso, pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce que le timing, effectivement, n'était pas adéquat.
Alors voilà pour les coachs. En Allemagne également, il y a un retour chez toi, Polo. 5 ans après, à 18h, retrouve l'Eintracht Francfort. Ça a été annoncé ces dernières heures. 5 ans, il avait fait quoi? 3 saisons sur place, 18-21, une demi de Ligue Europa. Il avait été l'entraîneur de l'année, hein, 18-19 par l'électeur de Bild notamment. Comment tu analyses ce retour? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Eintracht, ce retour d'Adi Hütter?
Alors c'est intéressant parce que lorsqu'il a fait la conférence, il a été présenté évidemment ou représenté et il y a eu les questions des journalistes et il y a une journaliste qui n'était pas tellement finaude, je trouve, lui a dit lorsque vous êtes arrivé en Bundesliga, vous étiez un no name. Aujourd'hui, vous avez réussi votre demi-finale de d'Europa League avec Francfort, vous avez été à Monaco, vous revenez comme ça alors que le club a beaucoup changé, a aussi gagné une Coupe d'Europe notamment en 2022. Comment vous percevez, comment vous voyez votre retour? Je trouve que cette question a ses limites au niveau du respect par rapport à qui est Adi Hütter, qui avait réussi en Autriche et en Suisse avant d'arriver en Bundesliga et qui était l'une des personnes très cotées. Mais lui, il explique qu'en fait, il est toujours resté en relation en fait avec Francfort et notamment avec Marcus Krösche. Moi, je suis jamais un grand fan des retours comme ça. Maintenant, on est dans une telle situation à Francfort que l'objectif est très simple. Allez, bon, déjà, il va y avoir une réduction de la voilure très claire à Francfort avec quelques ventes qui vont rapporter un paquet de pognon du côté de Francfort, mais surtout il va falloir à nouveau stabiliser l'équipe avec un gros pressing, on va dire l'école Red Bull qui est très classique. Donc ça, c'est ce qu'il sait très bien faire. En plus, le fait de choisir Adi Hütter, qui n'est pas quelqu'un de forcément très souple systématiquement avec certains joueurs, voir son passage à Mönchengladbach et avec Thuram par exemple, fait que il y a peut-être pas qu'un problème d'entraîneur à Francfort et que c'est peut-être justement une façon de nettoyer le vestiaire et de repartir sur de bonnes bases. Donc moi je vois ça comme ça. L'obligation l'année prochaine ce sera d'aller chercher une Coupe d'Europe, aussi petite soit-elle, une qualification pardon. Maintenant à 18h on voit ses qualités, c'est un excellent entraîneur. Est-ce que c'est un grand entraîneur? Je n'en suis pas persuadé.
On ne sait pas encore, on n'a pas la réponse. On n'a pas vu à Monaco le grand entraîneur puis, en tout cas.
Ouais, et puis juste un petit mot sur Iraola, c'est que vous savez que Philippe Luis s'est engagé aussi en L1 avec Monaco et il semblerait quand même que Leverkusen ait raté Philippe Luis, qui lui voulait absolument qu'on lui dise oui, et que le Bayer Leverkusen était en train de s'occuper, était occupé avec Iraola avant qu'il signe évidemment à Liverpool, et il se risque de se trouver vraiment dans le bec dans l'eau, puisque n'oublions pas, et j'ai vérifié parce que c'est un truc moi qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui ils sont en train de chercher un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, Leverkusen, mais ils ne sont toujours pas séparé de Kasper Juhlmann. C'est-à-dire que voyez ce qui risque de se passer. Kasper Juhlmann, qu'on accuse de tous les maux aujourd'hui du côté de Leverkusen, mais je pense que Leverkusen, depuis son doublé de 2024, a pris un petit peu la grosse tête, risque de se trouver le bec dans l'eau. Et Oliver Glasner, qui est aussi annoncé en discussion avec Leverkusen, n'est pas forcément une piste très chaude pour le club allemand. Donc moi, j'attends avec impatience les nouvelles du côté de Leverkusen. Qui va s'occuper du banc, qui va être sur le banc l'année prochaine.
Daniel est juste, on est allé un peu vite sur Adrien Rabiot, il y a beaucoup de questions notamment sur le chat YouTube. Quel avenir pour lui, son père spirituel d'entraîneur avec Deschamps, c'est Massimiliano Allegri, qui va donc, c'est pas encore officiel, hein, signé à Naples, c'est assez fou, il fait le tour des clubs. Est-ce que Rabiot va le suivre? C'est ce que je lisais dans la presse italienne ce matin justement.
Alors oui, ce qu'il dit c'est que ça dépend de Anguissa en gros, c'est-à-dire le Naples, ils ont un milieu assez riche, il va falloir que quelqu'un parte, c'est peut-être Anguissa qui va partir, et alors là oui, ça serait possible que Rabiot rejoigne Allegri, que voilà, on sait qu'il le considère un deuxième papa, on a fait ces mêmes discours l'année dernière, parce que il paraît à un certain moment que c'était absurde que Marseille allait se séparer de Rabiot et tout ça, et moi je disais, mais regardez que Allegri, il l'appelle, lui il répond et il lui passe les téléphones, quand il lui passe les téléphones il lui dit c'est ton papa. Donc il y a une relation spéciale. Apparemment, ça, on c'est pas sûr, on sait pas si c'est vrai. Allegri, lors du dernier match, il savait déjà qu'il allait partir, il savait déjà qu'il allait à Naples, et il allait chez Rabiot, chez Salemakers, leur dire de le rejoindre à Naples. Entre-temps, il y a De Bruyne qui s'est plaint du jeu de Conte, en disant que c'était pas assez amusant, et c'était pas assez, il jouait pas assez au football. Voilà, il lui avait promis quelque chose qui lui ont pas donné. Et donc voilà, qu'est-ce qui va se passer avec Allegri? Peut-être que le milieu de Naples change beaucoup. Pour le moment, il y a beaucoup de gens. Donc il va falloir que quelqu'un parte, va falloir faire du mercato, parce que Naples, ils avaient aussi beaucoup dépensé pour compter justement pour essayer de gagner les championnats deux fois de suite. Et donc voilà, on sait pas vraiment.
La question de l'avenir de De Bruyne également qui se pose.
Oui.
Daniel, chez toi à Naples. Beaucoup de questions qui vont se poser là, les anciens notamment. Est-ce qu'un Luka Modric va rempiler, va rester au Milan par exemple?
Non, mais non, Modric, pour le moment, ce qu'il dit, c'est qu'il va saluer le football, il va, ses derniers matchs, il va aller jouer la Coupe du Monde. Et voilà, si vous voulez, on peut dire que l'Italie, elle a tellement fatigué Modric qu'il a plus envie de jouer au foot.
Quoi, terminé, dégoûté du football, quoi. Voilà,
c'est mais ça. Lui, deux jours avant que le Milan limoge Allegri, il avait parlé d'Allegri comme un des meilleurs entraîneurs qu'il ait jamais eu. Donc, je sais pas non plus qu'est-ce qui se passe dans la tête de Modric. Peut-être le coup qu'il a pris à la mâchoire, à la pommette, c'était très fort.
Il a perdu un peu la tête, peut-être, exactement. Ouais. Bon, pour conclure sur le mercato, c'est brûlant, visiblement, Julien, concernant Pierre Sage et Crystal Palace. Hein. Je vois la BBC qui disait que, bon, depuis plusieurs semaines, Crystal Palace observe, et tente d'approcher Pierre Sage, le coach de Lens, bien sûr. Qu'en est-il aujourd'hui?
Oui, je pense effectivement que les positions se rapprochent, toutes les positions, hein, celle de Lens aussi forcément, parce que pour eux, ben, il faut préparer l'après Pierre Sage s'il s'en va, il était encore son contrat aussi, donc il y a forcément un accord à trouver entre les deux clubs. Pour Crystal Palace, c'est vrai que depuis longtemps, ça ne date pas que de cette saison, on l'a expliqué un tout petit peu hier dans l'after avec Gilbert et les garçons, que le fait que des clubs anglais comme Liverpool, comme Crystal Palace avaient forcément déjà noté le très bon travail de Pierre Sage à Lyon, déjà avant même son arrivée à Lens, mais encore plus après la très belle saison qu'on a vue à Lens, notamment dans son côté intensité, pressing, mouvement, etc., la façon dont son équipe joue. En plus, quand on suit Glasner, quand tu succèdes pardon à Glasner et sa défense à 5, et que tu joues déjà dans une défense à 5 avec les mêmes joueurs, c'est forcément plus pratique. Donc du côté de Crystal Palace, on voulait un entraîneur qui jouait avec une défense à 5. Et donc c'est vrai que Pierre Sage, comme disent les Anglais, ont cette expression, ils disent « tick all the boxes ». Donc il coche toutes les cases en fait de ce que Palace recherchait. Et après, ce serait triste de le voir quitter Lens et de pas amener cette équipe en Ligue des Champions comme il l'a qualifié pour la Ligue des Champions. Mais moi, je serais très excité de le voir en Première Ligue. Et même si je serais très triste pour mon ami Joseph Ougourlian, je pense que ce serait un très bon coup réalisé par Crystal Palace et leur club.
Il a des amis partout, Julien. Alors, votre 11, je voulais ponctuer la saison de club ainsi, avec vos 11 dans vos championnats respectifs. On les postera sur les réseaux de l'After, notamment sur X. Je vais commencer avec toi, Edgar. Quel est ton 11 Liga cette saison?
Alors, mon 11 Liga, forcément l'équipe la plus représentée, c'est le FC Barcelone, qui est champion d'Espagne, avec Joan Garcia dans les cages, la défense, de la droite vers la gauche. Marcos Llorente de l'Atlético, Marc Poubil de l'Atlético, parce que même s'il a fait qu'une demi-saison, sur cette demi-saison, je pense que c'est le meilleur défenseur du championnat. Eric Garcia à ses côtés, joueur du Barça. Et puis à gauche, Carlos Romero de l'Espagnol. J'hésitais avec Pep Chavarria du Rayo, mais je voulais pas oublier aussi le très bon début de saison de l'Espagnol. Et d'ailleurs, Carlos Romero, il retourne à Villarreal la saison prochaine, ça peut être une très très bonne recrue entre guillemets pour qu'il revienne de près. Au milieu de terrain, Pedri évidemment, quand même si je restais un tout petit peu sur ma faim sur la deuxième partie de saison. Et à gauche, j'ai beaucoup hésité entre trois joueurs, Luis Milla, Pablo Fornals ou Aurélien Tchouaméni. J'ai choisi Luis Milla, même si les deux autres méritent autant d'y être, parce que Luis Milla, il termine, comme on le mentionnait la semaine dernière, avec 10 passes décisives tout en jouant dans l'avant-dernière attaque du championnat. Donc je voulais quand même souligner ça. Et puis devant, on va dire qu'on a un 4-4-2 très très offensif, avec Lamine Yamal à droite, forcément. Molero joueur, de Villarreal à gauche. Ouais, mon meilleur joueur. Molero à gauche pour récompenser aussi Villarreal, même s'il a manqué parfois de régularité. Il fait une très très bonne saison et il fallait forcément aussi un joueur de Villarreal puisqu'il termine troisième du championnat. Et puis devant, Kylian Mbappé et Vedat Muriqi.
Bon, c'est très déséquilibré, ce 4-2-4, à limite, d'Edgar Grelot, mais pourquoi pas.
N'importe quoi, hein.
Ça n'a aucun sens, c'est bon. Moi, il a empilé des joueurs. Ben, voilà, c'est tout. Il y a
aucun truc. Ouais, c'est un 4-4-2 très offensif.
Oui, c'est même un
4-2-4. Après, si tu veux, si vous voulez, je vous sors Molero, je mets Chouamini au milieu, et on a un peu plus d'équilibre.
Tu gagneras 8-7 ou tu perdras 7-2, mon cher Edgar.
On va gagner 5-4 contre la Bundesliga.
D'accord. Tiens, Julien, ton 11 de la saison première ligue, c'est important.
Allez, c'est parti. Alors moi, c'est un vrai 11, hein. C'est pas un truc de footix là comme Edgar. Attends, faut que je retrouve. Mais... Alors voilà.
D'accord.
Alors forcément, une défense qui est à 80. Enfin non, beaucoup d'Arsenal, on va dire. J'arrive plus à compter. Donc Raya dans les buts, de loin le meilleur gardien de la saison. Même si on aurait pu parler de Roofs à Sunderland, qui a été très bon aussi, par exemple. Mais Raya, c'est le plus de clean sheet cette saison. C'est encore une fois des arrêts assez incroyables. Sur des matchs très importants, notamment celui à domicile contre Brighton par exemple. Tout ça, une défense où il y a trois autres gunners, Timber arrière droit malgré sa blessure de fin de saison, Saliba et Gabriel bien sûr dans l'axe, pour moi la meilleure paire de défenseurs centraux en Europe, le jeune O'Reilly de Manchester City arrière gauche, qui est alors pas un arrière gauche je sais, mais dans mon équipe où on va jouer beaucoup avec le ballon pour mettre 7 buts à celle d'Edgar, bah mon petit O'Reilly viendra au milieu de terrain. Il est grand, il est athlétique, il est élégant avec son pied gauche. Et il a vraiment été très très bon avec le City de Guardiola. Il aura notamment gagné la Coupe de la Ligue avec ses deux buts en finale contre Arsenal. Un milieu à trois, mais parce que Bernardo, je vous expliquerai son rôle un petit peu hybride, on va dire. Mais Rice et Elliot Anderson devant la défense. Rice parce que c'est le patron. Sincèrement, c'était assez exceptionnel de le voir à ce niveau-là cette saison. Et puis Elliot Anderson pour sa dernière saison sûrement à Forest. A encore pris une autre dimension, a franchi un palier assez important, notamment avec la Coupe d'Europe aussi. Il aura un gros transfert cet été, c'est sûr, soit à City, soit à United, soit ailleurs, mais il va aussi être titulaire avec l'équipe d'Angleterre de Thomas Tuchel, parce qu'il a vraiment fait une saison fantastique. Et donc j'aurai Bernardo qui sera un peu libre aussi, parce que c'est Bernardo Silva, parce que c'est le joueur le plus intelligent que j'ai jamais connu, que j'ai jamais rencontré. Bruno Fernandez en 10 pour toutes les passes décisives qu'il va distribuer à mon duo d'attaquants, Erling Haaland bien sûr, meilleur buteur encore une fois de la saison en première ligue, et puis Igor Thiago à Brentford, qui nous a sorti une saison, alors il y a beaucoup de pénalty c'est sûr, mais à 21 buts, incroyable pour ses débuts en première ligue. Il avait été blessé quasiment toute la saison dernière après être arrivé de Belgique, et que c'est quelqu'un qui a une histoire fantastique, qui encore à 24 ans était pas vraiment pro. Il a travaillé comme ouvrier dans les chantiers au Brésil avant de tenter sa chance en Europe. Et moi, je trouve que cette abnégation-là, elle est très méritante. Et donc, voilà, pour moi, sans aucun doute, Igor Thiago dans mon équipe de la saison.
Et Bruno Fernandes, ton meilleur joueur de première ligue. Polo, ton 11 allemand.
Alors, j'ai eu quelques. Je suis resté très sérieux, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas voulu partir dans des joueurs qui auraient mérité d'être dans ce 11. Et notamment le jeune Maza. Donc, meilleur gardien de la saison, c'est Kobel de Dortmund. Défense centrale, là, je me suis posé pas mal de questions. Schlotterbeck, évidemment, stopper gauche, aussi parce qu'il est gaucher. Et puis, j'ai mis, moi, celui que je considère comme la révélation de la saison en Bundesliga, au minimum en défense, c'est évidemment Vuskovic. Ou pas Mécano le méritait, et évidemment. Jonathan Tah, évidemment, du Bayern le méritait aussi, mais j'ai préféré privilégier la défense. Oui. À droite, il fallait absolument récompenser Hoffenheim, et un joueur qui est vieux, Koufal, a fait une saison extraordinaire. Évidemment, statistiquement, Ryerson de Dortmund est au-dessus, mais Koufal a été, notamment lors des 6 premiers mois, génial ici, mais encore une fois, le fait de s'être relancé a été une véritable surprise. Côté gauche, je suis resté très classique, j'avais le choix entre Braun et Rome, j'ai choisi Rome, évidemment, de Leipzig. Au milieu de terrain, alors là, ça a été le plus compliqué, donc je suis en 4-4-1-1. Là, j'ai choisi le milieu de terrain du Bayern, évidemment, parce que c'est compliqué d'enlever un véritable numéro 6 comme Pavlovic avec Kimmich à côté. Là, c'est vraiment le truc le plus compliqué, parce qu'un Maza est évidemment pas loin, mais quand tu vois la saison qu'a réalisé le Bayern, c'est pas possible de l'enlever. Et là, on en revient sur les ailiers, Olise côté droit, et là, c'est compliqué côté gauche, évidemment, puisque le choix entre Diaz et Diomande est compliqué. J'ai évidemment choisi, statistiquement c'est toujours pareil, c'est Diaz qui est au-dessus pour le moment, hein. Ça ne veut pas dire que Diomande ne le sera pas l'année prochaine s'il reste en Bundesliga. Et les deux attaquants, Undav qui a porté Stuttgart cette saison, et évidemment King Kane, hein, qui est évidemment intouchable.
Voilà, pour le 11 de Polo. Et le dernier 11, celui de Serie A. Tu joues dans quel système, Daniel, et toi?
Moi, je savais pas qu'on devait jouer les uns contre les autres, sinon j'aurais mis 5-3-2, comme tous les gens en Italie. Non, moi, j'ai mis un 4-2-3.
Ils jouent pas avec les mêmes règles, les autres, Daniele. T'as raison.
Ouais, non, moi, j'ai mis un 4-2-3-1 pour faire de plaisir aux yeux des supporters. Dans les buts, il y avait le choix entre Svilar et Maignan, en gros. Mais Maignan, à la fin de la saison, il a un peu baissé ses performances. Et Svilar, il reste le gardien qui a bloqué le plus d'expected goals, par exemple. Le pourcentage le plus haut, c'est à 115%. Et en plus, voilà, je pense qu'il va avoir aussi des mercatos. La Roma, elle doit vendre. Soit c'est Svilar, soit c'est Manu Koné. Et après, en défense, de la droite à la gauche, Palestra, que c'est même un joueur qu'il devient trop gros pour l'Italie. C'est même en plus réductif de parler de lui comme un arrière droit. C'est un arrière droit où il joue avec les deux pieds, en fait, droit et gauche. Mm-hmm. Il est très offensif, très costaud, très vite. C'est vraiment un joueur de Premier League. Moi, je pense que lui, il va, s'il continue comme ça, au moins, on va entendre parler de lui. Akanji, c'est un très bon recrue pour l'Inter. C'était peut-être le meilleur défenseur du championnat. Jacobo Ramon, c'est le jeune défenseur prêté de Madrid à Com. Il a très bien joué, il est pas parfait, mais il est très jeune. Et en plus, Com, ils ont une attitude que je voudrais porter dans mon 4-2-3-1, c'est-à-dire défense haute et agressive. Di Marco, latéral gauche, c'est le meilleur joueur de la saison. Il a marqué, je me souviens plus combien de passes décisives, mais c'est vraiment, c'était sa meilleure saison de sa vie. Milieu, Manu Koné, Dacuña, voilà, j'ai choisi un milieu français. Vous savez tellement que j'aime Dacuña, son histoire, qu'il était à Com quand ils étaient en deuxième division. C'était un numéro 10 qui était replacé devant la défense. Et il a tous les qualités du monde. Je pense que la seule chose qui lui manque un tout petit peu, c'est un peu de l'athlétisme. C'est-à-dire des puissances, d'explosivité dans les premiers pas. Mais sinon, il est dynamique, il a la technique, il a plus de technique de Manu Koné, il voit plus le but de Manu Koné. Moi, j'aurais bien aimé le voir à la Coupe du Monde. Bon. Les trois joueurs sur les trois quarts, c'est Alisson Santos de Naples. Il a pas beaucoup joué, il est arrivé en cours de saison. Mais c'était un crack. C'était un joueur que, il n'était pas titulaire à Sporting, il n'était pas toujours titulaire avec Naples, mais à chaque fois qu'il jouait, on se disait, tu vois, ça c'est le type de joueur qui manque en Italie, qui peut faire la différence en Italie. Et Lautaro, derrière le numéro 9, parce que Lautaro, même si c'est surtout avec l'Argentine, il va être un buteur, c'est un très grand numéro 10, c'est-à-dire moi je pense le meilleur attaquant joué dos au but avec le défenseur qui le presse par derrière. C'est vraiment c'est vraiment le meilleur au monde à faire ça, avec Harry Kane peut-être au même niveau. Après, Harry Kane, il a plus de vision de jeu, c'est plus un vrai numéro 10 avec créativité. Mais juste si on parle de maintien du ballon, Lautaro top. Et Nico Paz à gauche, même si lui, normalement, oui, il joue à droite. Mais c'est, on l'a dit, il a fait un début de saison spectaculaire. Après, il a un peu baissé son niveau aussi. Il reste très jeune, il reste excitant, beau à voir. Et en plus, fort, très fort dans les duels. Moi, j'espère qu'il va rester en Italie l'année prochaine aussi. Et bon, le numéro 9, même s'il a joué 6 mois en Italie, c'est Donny Malen. C'est un joueur incroyable. Lui aussi, c'est sur un autre niveau. Ses démarquages, ses premiers contrôles, la façon dans laquelle il voit les buts et les buts qu'il a marqués. Parce que je crois qu'il a marqué 15 buts en 17 matchs, un truc comme
ça. Avec la Roma, ouais, c'est ça. Ouais. Mais...
c'était incroyable. On va le voir lui aussi à la Coupe du Monde. Je suis très, très, très curieux de voir s'il le laisse jouer numéro 9. Parce que je pense que lui, peut-être il a changé sa carrière aussi.
Exactement. Voilà le 11 d'Anilé. Très complet. Voilà les 4 11 qu'on va publier sur les réseaux. Vous pourrez débattre entre vous. Il y aura forcément des débats. Dans un instant, tiens, la Coupe du Monde, on va l'évoquer. Ça démarre dans 10 jours à peine. On va beaucoup en parler, vous le savez, sur RMC, la radio officielle du Mondial. Dans un instant, les Drôles de Dames vont nous donner leurs favoris, leurs outsiders également. On va débattre ensemble. D'abord, une minute musicale. Daniele, tu gardes la main. On envoie la musique, Polo.
Quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri.
Bon, ça c'est Fabrizio De André, je pense que quelqu'un le connaît déjà. La chanson s'appelle Amore che viene, amore che vai. Et ces mots-là, ces jours perdus à courir après les vents, à demander un baiser et à en vouloir sans d'autre, ça me fait penser à Rafa Leao. Même c'est Rafa Leao qui m'a fait penser à cette chanson. Parce qu'il y a un peu à cause de ses vers, sur les jours passés à courir après le vent. Peut-être la plus grande qualité de Leao, cette légèreté dans la course qui le rend parfois incessable. Un peu à cause de ses baisers ou des quelques baisers qui donnent envie d'en recevoir beaucoup d'autres. et les tifos de les supporters de Milan, combien des baisers de Leao auraient voulu avoir plus de ceux qu'ils ont eu et qu'ils n'ont jamais eu. Aujourd'hui, au terme d'une saison où il a joué par intermittence, il a marqué que 9 buts et il a semblé pour la première fois dans son histoire à Milan ne plus être indispensable, ne plus être le meilleur joueur. Ils devront probablement se dire adieu, Milan et Leao. Leao, il a laissé un message sur les réseaux où il a dit qu'il a tout donné à Milan et qu'il est, voilà, son rêve maintenant c'est de jouer dans un autre championnat. Les clubs s'est agacé parce que ils ont parlé d'un dégât économique, mais la Gazzetta, il a fait une première page peu nostalgique où ils ont marqué ciao Leao. Donc l'impression c'est qu'il laisse Milan avec l'idée d'un potentiel jamais exploité totalement, avec des très bons moments, les saisons 2021-2022 et 2022-2023 où il a gagné les championnats, il a mené le Milan à la demi-finale de la Ligue des Champions, où il a marqué 14 et 16 buts, 12 passes décisives pour chaque saison. Donc quand même il a atteint un bon niveau, mais après il n'est pas devenu le leader que le Milan il voulait et que les supporters de Milan ils avaient cru avoir à un certain moment. Donc c'est un de ses amours que on s'est dit voilà, je t'ai beaucoup aimé, mais c'est peut-être le moment de se quitter. Trop romantique peut-être.
Magnifique. Non, ouais, très bien. Show musical parfait, Daniele. Comme tous les lundis. Merci pour ta minute musicale. Dans un instant, la Coupe du Monde, on en parle avec les cadres de dames. Restez avec nous et avec RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les 4 drôles de dames, RMC, 21h33, l'after pour le relais à 22h jusqu'à minuit, comme tous les soirs en direct de Valenciennes ce soir. Alors, la Coupe du Monde, c'est dans 10 jours, les amis. Je sais pas si ça frémit déjà un peu chez vous en France, pas tout à fait. Pas vraiment, on a l'impression qu'elle arrive dans un mois seulement. Il a fallu laisser passer la finale de la Ligue des Champions pour commencer à entrer dedans. Il y a des matchs de préparation ce soir. L'Autriche face à la Tunisie, 0-0, mais l'Autriche réduite à 10. Contre Moise, après Conrad Leimer, le rouge qui s'est, dont il a écopé à 37.
Tu dis quoi, Paulo ? 3 poteaux pour la Tunisie. Ouais. J'ai rarement vu l'Autriche aussi mauvaise que ça. On m'expliquait que la Tunisie c'était très très moyen. Ben, ce que je vois ce soir.
Tunisie, c'est très très moyen la Tunisie, en tout cas.
Ben, sur la dernière c'est dégueulasse.
Autriche dégueulasse. C'est qu'un match de prépa. La Norvège a battu la Suède 3-1 avec un doublé de Jørgen Larsen, joueur de Crystal Palace, arrivé cet hiver, je crois, mon cher Julien. Crystal Palace. Et Noussa de Leipzig. Qui marque pour la Norvège. Ah, je vous dis attention la Norvège les amis. On en parle pas beaucoup.
Sans Haaland.
Sans Haaland ce soir.
On en parle beaucoup.
Ouais, toi t'en parles beaucoup. Mais Odegaard, Haaland, comment tu dis Daniele?
En Italie, on en a parlé beaucoup.
Oui, bien sûr, évidemment. Ils vous ont mis 2x4-1, c'est ça? 4-1 et sur le match retour, je sais plus.
3-1, je pense, sur le match retour, ou 4-1, mais 4-1 sur surtout retour, ouais. Ils ont été largement supérieurs tous les deux fois, mais vraiment d'un autre niveau.
On parlera de la Norvège et d'ailleurs vous pouvez écouter le podcast déjà en ligne sur YouTube, la chaîne de l'After consacrée à la Norvège comme les 47 autres sélections. Alors, comment on parle de ce mondial? Vous allez vous engager les drôles de dames. Quel est votre favori dans cette compétition qui approche? C'est un petit jeu un peu puéril mais qu'on aime bien faire quand même, savoir comment vous vous situez par rapport aux forces en présence. La sélection la mieux armée selon vous aujourd'hui, celle qui va confirmer son potentiel, ses résultats récents, la continuité ou surprendre. Je commence avec toi, Daniele, honneur à l'absent bien sûr. Daniele, qui tu vois gagner la Coupe du Monde 2026?
Merci, mais c'est banal peut-être de le dire, mais je pense que la France c'est l'équipe favori. Après, bien sûr, il y a l'Espagne qu'on a vu, elle a du potentiel, mais elle a peut-être aussi, si je ne me trompe pas, j'avais regardé comment ça pourrait finir les tableaux selon les premiers et les deuxièmes classifiés. Ils ont un bon côté de tableau. Et après, nous, en Italie, on va pour supporter le Brésil, pour Ancelotti. Les journaux, la Gazzetta, elle publie des nouvelles du Brésil, un peu comme si c'était notre deuxième équipe. Et moi, j'ai dit, attention, t'as dit attention à la Norvège, moi, j'ai dit attention au Japon. Au Japon.
Le Japon?
Moi, je le vois loin. Moi, je le vois même huitième, quart de finale.
Il y a un groupe difficile.
J'aime bien.
pas gagner, mais pas pour gagner. Mais ils n'ont pas Mitoma, mais ils ont un système de jeu que, effectivement, même s'il n'y a pas Mitoma, ça ne change pas énormément.
Ils vont éliminer les Pays-Bas, c'est cool.
Alors, je précise, hein, ils commenceront par les Pays-Bas, Tunisie ensuite, que tu regardes ce soir, Polo, et avant de finir face à la Suède, dans cette phase de groupe de la, du Mondial. Tu es d'accord avec lui? Tu mets le Japon comme un outsider, Polo, toi aussi?
Ah oui, mais déjà, ça fait quelques Coupes du Monde que le Japon se débrouille bien, puis ils ont une belle génération. Donc, moi, si le Japon m'intéresse beaucoup. S'ils arrivent à compenser physiquement parfois ce qui leur manque un petit peu, ils s'y font encore des... Mais c'est un groupe compliqué, attention, hein, Suède, Suède, Pays-Bas, Japon, et puis j'en ai oublié un, et puis Tunisie, oui, et ça va falloir sortir. Hein.
Bon. Quel est ton favori, Polo, toi, de la Coupe du Monde?
Moi, je reste sur le championnat d'Europe. Donc, l'Espagne me semble toujours au niveau du collectif un petit peu au-dessus. La qualité individuelle des Français, elle est là évidemment. L'Angleterre, ça reste l'Angleterre. Le maillot jaune de la première semaine du Tour de France. Et
justement, on va en parler avec Julien. Mais ça veut dire quoi? Oui, l'Angleterre, ça reste l'Angleterre. Ça reste l'Angleterre qui ne gagnera
J'ai commencé à regarder l'Angleterre dans les années 80. Et je crois que les Anglais ont un problème déjà avec leur représentation en fait de l'équipe nationale. Je suis pas persuadé que tous les Anglais soutiennent l'équipe nationale. Par exemple, les Allemands sont beaucoup plus nationalistes à ce niveau-là que les Anglais. Donc, je pense qu'il y a une identification au club qui est plus importante que pour la sélection. Et moi, quand je voyais à chaque fois les équipes anglaises, tu te dis mais attends, leur 11, ils vont aller loin, etc. Et à chaque fois, ils sautaient. À tel point que je trouve que moi je rigolais quand on a inventé cette expression qu'on n'utilisait pas lorsque j'avais encore beaucoup de cheveux, qui était cette génération dorée. Tu vois, la génération dorée, c'est les équipes de losers en Allemagne, c'est tout. C'est pas il y a eu la Coupe du Monde 66. Les Anglais, on nous dit, ils sortent en ce moment des joueurs tout le temps, mais moi je ne le vois pas spécialement collectivement par rapport à l'Espagne. L'Espagne est largement au sens collectif, largement au-dessus des Anglais. Donc moi j'en suis là en ce moment. Portugal peut-être peut faire quelque chose à une belle génération. L'Allemagne pour moi sur le papier est très compétitive, mais à chaque fois que je les vois jouer, j'ai l'impression qu'on ne joue pas une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe, mais le championnat d'Europe espoir. Je commence à chaque fois, j'ai toujours pas mon 11 de départ, on l'a vu d'ailleurs, même si la victoire a été tranquille 4-0 hier, on voit que c'est le jeune Karl qui a joué, il a mis Braun plutôt que Rome, il a évidemment Neuer est blessé, donc c'est Bowman qui était là, donc on n'a pas forcément le 11 de départ.
Également il y a un devant devant, bien sûr.
Exactement, et puis donc moi le problème c'est que si la France arrive trop tôt, ça risque d'être compliqué pour l'Allemagne. Mais c'est une équipe qui pourrait se révéler, c'est-à-dire que elle fait partie des favoris, mais ce n'est pas le favori en fait. Et elle a besoin. Ça fait 10 ans quand même que l'Allemagne n'est pas allée en demi-finale d'une grande compétition. Donc ça me semble important. Et ce que je trouve dommage, c'est que j'ai le sentiment que par rapport à l'Euro 2024 où l'Espagne avait battu, éliminé l'Allemagne, j'ai pas le sentiment que le gap s'est rétréci. Et j'ai plutôt l'impression que le trou s'est creusé entre les Espagnols et les Allemands. Mais c'est un avis évidemment très personnel envers la compétition. Et pour ma surprise, le Japon, ouais, évidemment. Je pensais à l'équipe que je suis en train de regarder ce soir, c'est l'Autriche. Moi, je voyais très bien l'Autriche. Mais alors, ce qu'ils font ce soir, c'est assez lamentable. Mais je vais rester sur eux. Pas de Coupe du Monde depuis 1998. Donc voilà. Et puis peut-être une équipe africaine. Je pense à la Côte d'Ivoire en particulier.
Au Sénégal aussi. Plus la Côte d'Ivoire.
Maroc,
Côte d'Ivoire. Moi, c'est plus la Côte d'Ivoire. Ouais, Maroc ou Sénégal, plus la Côte d'Ivoire. Je suis d'accord avec toi, Julien. Voilà pour Polo. Tiens, ajoute la surprise également, Julien. Toi, commençons par ça. C'était une surprise qui sort du chapeau, c'est qui?
La Colombie pour moi.
La Colombie pour
moi. Norvège et Colombie. L'Équateur, mais je trouve que l'Équateur, autant défensivement, c'est quand même. Très fort. Ouais. C'est ça. Autant offensivement et Norvège.
Ah, j'allais donner l'Équateur, moi.
Alors pourquoi? Vas-y,
ouais, je comprends tout à fait.
À part la charnière, je veux du muscle également en Équateur. Vas-y, dis-moi.
Non, mais je pense que une Coupe du Monde, t'as pas besoin d'être flamboyant, et que ça va être une équipe extrêmement dure à jouer. Je veux dire, c'est une équipe qui a pris 5 buts en 18 matchs de qualification. Et ça, à la Coupe du Monde, je veux dire, t'as pas une seule équipe qui va être contente de jouer l'Équateur. T'as des équipes qui vont être un peu plus stressées que d'habitude, qui vont avoir du mal à développer leur jeu. Donc des fois, quand ton jeu est basé sur la solidité, même si effectivement au niveau de l'effectif, évidemment, t'as des joueurs phares, mais t'as peut-être moins de créateurs que dans d'autres équipes, ou peut-être qu'on va moins se régaler qu'avec d'autres équipes. Mais je pense que ça va être une équipe vraiment très très difficile à jouer. Et surtout quand je regarde leur groupe, Curaçao, Allemagne, Côte d'Ivoire, c'est un groupe duquel ils peuvent se sortir. Et derrière, une fois que ça va être les matchs à élimination directe, encore une fois, c'est vraiment pas une équipe sur laquelle j'ai envie de tomber. Donc je pense que, alors évidemment, c'est pas une équipe pour aller gagner la Coupe du Monde, mais je pense que c'est une équipe qui peut être une petite surprise. Pourquoi pas sortir un outsider au titre et être une des belles histoires de la Coupe du Monde, même si je suis d'accord avec vous, ils ont des limites qui font que je les vois pas non plus aller au bout ou en demi. On est tous d'accord.
Et Julien, une deuxième, vas-y Julien, des éliminatoires de la,
tout à fait,
de la zone.
Ah là, un deuxième des qualifications.
Ils sont tous du Qatar. Ils étaient déjà au Qatar, quasiment à 90% le même effectif.
Exactement. On verra ça. Garde ton favori, Julien, dans un instant après la pause. D'abord ta minute musicale. C'est parti. On envoie la musique pour Julien Polo.
Electric Live Orchestra, le groupe de Birmingham des années 70, un des très bons groupes de rock de l'époque en Angleterre, avec It's Over, parce qu'on va parler de la retraite de James Milner, qui a annoncé donc sa retraite ce week-end à l'âge de 40 ans. On avait déjà parlé de lui, rappelez-vous, quand il avait battu le record de Gareth Barry pour le plus grand nombre de matchs en Premier League, 658 matchs. Il a commencé à 16 ans, ça fait donc 24 saisons de suite qu'il a évolué chez les professionnels à Newcastle, à Leeds. Vous vous rappelez de ses débuts à Leeds où il avait vraiment l'air très très jeune, à Aston Villa, à Manchester City, à Liverpool. Au total, 903 matchs en club dans toute sa carrière, toutes compétitions confondues, 61 sélections avec l'équipe d'Angleterre. Le professionnel du professionnalisme, en fait, si vous voulez. Incroyable, hygiène de vie, diététique, tout ce que vous voulez, tout le travail invisible dont on tagne les jeunes joueurs avec en disant faut faire ci, faut faire ça. Bah voilà, faut faire du James Milner si vous voulez durer dans le foot. Et cette longévité, elle est magnifique. Alors, It's Over, c'est un peu... T'as l'impression que c'est un peu négatif, mais pas du tout. En fait, c'est juste pour dire, bah voilà, c'est terminé, la belle aventure, la belle histoire. Une histoire de donc 24 ans chez les pros, à 40 ans, même s'il a, fait, il a encore fait quelques bons trucs avec Brighton cette saison, mais je pense qu'il s'est dit, bah, 40 ans, c'est donc le cinquième joueur de l'histoire de la Première Ligue à encore jouer à l'âge de 40 ans. C'est tout simplement incroyable. Donc voilà, je pense qu'il mérite un très bel hommage. Et pas que de nous ce soir, mais aussi, et l'aura de toute façon en début de saison, de la Première Ligue, de ses anciens clubs, parce que c'est quand même un dinosaure incroyable de la Première Ligue qui prend sa retraite à un moment où on en voit de moins en moins, ces joueurs-là, hein, qui restent comme ça jusqu'à aussi longtemps dans le jeu. Franchement, bravo à lui.
James Milner, le match de Julien aux joueurs anglais. Merci Julien pour ta minute musicale, on apprécie le choix également pour la dernière de la saison. Dans un instant, le favori de Julien, d'Edgar évidemment, qui sera le meilleur joueur selon vous, si vous misez sur une révélation, un espoir qui va éclater aux yeux du monde pendant ce mondial. Eh bien écoutez, dans un instant, les quatre drôles de dames, vous serez peut-être d'accord avec elles. Restez avec nous dans un instant, la suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Germain.
Dernier quart d'heure avec les drôles de dames, Daniel et Edgar, Polo, Julien. Bien sûr, l'After à 22h avec Olivier Létang, invité exceptionnel. Ce sera en direct de Valenciennes de 22h jusqu'à minuit. Julien, Laurence, on parle de la Coupe du Monde. Quel est ton favori ?
Alors moi, je pense qu'il n'y a pas un meilleur collectif que celui de l'Espagne, déjà,
ah bon,
à la base. Donc, collectivement, pardon.
Oui, collectivement, tu parles, ouais, de jeu, tu parles de préceptes.
Voilà, tout, dans les automatismes, voilà, dans les habitudes de jeu, dans les circuits préférentiels, ouais, même si on sait que les circuits préférentiels au niveau international, c'est plus compliqué à mettre en place. Il y a pas mieux individuellement, il y a pas mieux que l'équipe de France déjà. Donc voilà, après, c'est encore une fois qui prendra le dessus sur l'autre quand on aura ce genre de confrontation entre une équipe très forte collectivement, ouais, et une équipe qui sera plus forte avec ses individualités. Donc à voir. Moi je pense que le climat déjà avantagera massivement les pays sud-américains. Donc en gros, le Brésil et l'Argentine surtout. Et puis ensuite après, l'Équateur dont on a déjà parlé, la Colombie également. Je pense que le soutien populaire encore une fois, des pays sud-américains sera un énorme avantage par rapport notamment aux Européens. C'est-à-dire qu'il y a une énorme communauté brésilienne et argentine, mais aussi colombienne, équatorienne, etc., etc., déjà aux États-Unis. Alors que nous, on aura quelques milliers de Français qui arriveront. Eux, ils seront un peu comme au Qatar, des dizaines de milliers. Je pense que ça va faire une grande différence aussi à ce niveau-là. Et après, ce qui me fascine le plus, moi, c'est de voir Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, ces entraîneurs-là qui n'ont jamais entraîné au niveau international avant et qui vont jouer leur première compétition, au-delà même de ce que Roberto Martinez va pouvoir faire avec un effectif fantastique. D'ailleurs, c'est peut-être le meilleur effectif de toute la Coupe du Monde, c'est celui du Portugal. Mais moi, aujourd'hui, si tu me dis est-ce que Roberto Martinez va faire tous les bons choix, j'en suis pas convaincu du tout. J'aime beaucoup Roberto, hein, mais il me convainc pas du tout. Donc ça, ce sera à voir aussi. Et puis, bien sûr, l'adieu aux légendes, voilà. Messi, dernière Coupe du Monde, Ronaldo, Modric, etc., etc.
Neymar aussi, hein, sûrement un adieu, hein, Coupe Neymar du Monde aussi, pour Neymar avec le Brésil.
Manuel Neuer.
Manuel Neuer également.
Il y a plus d'adieux que d'habitude.
C'est le mondial de l'EHPAD, hein, étonnamment.
On pensait que c'était le mondial d'il y a 4 ans initialement, ce genre d'adieu. On pensait que c'était, on l'avait annoncé déjà comme le dernier de Messi et Ronaldo, par exemple.
Quelle est la légende qui va faire le mondial le plus catastrophique selon vous? Entre Cristiano, Messi.
Tu veux vraiment qu'on se fasse insulter sur les réseaux?
Neuer, oui, j'ai envie de ça, mettre un peu de vie. Mais quel est celui qui a le moins sa place finalement encore à une Coupe du Monde là? Ah, c'est un bon débat ça.
Mais tout le monde connaît la réponse, mais on peut pas vraiment le dire.
On va se faire Cristiano Ronaldo, vas-y, dis-le. Un peu de courage.
Les Madridistas et tout ce que tu veux.
Mais il y a un joueur qui est à peine sur deux pieds et qui va jouer la Coupe du Monde. Je dirais Cristiano Ronaldo, je comprends par rapport à son âge, etc. Mais
tu parles de Neymar
aujourd'hui, t'as aussi des chances qu'il fasse une Coupe du Monde.
Ouais, je pense qu'il prend moins de risques.
Il va beaucoup partir titulaire, alors que Cristiano partira titulaire déjà.
Tout à fait.
Je pense qu'il y a beaucoup.
Mais Cristiano récemment, il a beaucoup marqué aussi avec la sélection.
Je pense qu'il y a beaucoup de risques autour de Manuel Neuer. Je vous parlais d'Uli Stein qui avait été dégagé de la Coupe du Monde 86. Il a dit le retour de Manuel Neuer en équipe d'Allemagne est un non-sens complet. C'est-à-dire que ça, il ne fait pas l'unanimité. Faut dire très clairement ce qui. Et puis là, il a repris l'entraînement, mais évidemment, il n'était pas là contre la Finlande. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de. Donc, si, ok, il y a l'aura, il y a tout ça. Mais moi, je suis pas sûr que ce soit franchement, une belle sortie.
Même lui aurait dû y penser, mon cher Paul Loire. C'est évident, c'est facile dans ma position. On se dit un dernier mondial, États-Unis, l'Allemagne, la légende Neuer. Mais il aurait pu se dire, écoute, qu'est-ce que je vais foutre là-bas encore, quoi. Ma carrière, elle a réussi avec la National Mannschaft. Pourquoi en faire une dernière à plus de 40 ans après avoir été blessé plusieurs fois cette saison? Je vois pas trop
ça prépare pas l'avenir. L'équipe a un tableau compliqué parce que si tout se passe bien pour les deux nations, la France et l'Allemagne vont s'affronter en 8e de finale. Donc ça va strictement rien apporter en fait.
Oui, même à lui,
parce que le discours en Allemagne, c'est en 8e, l'Allemagne sort. Et on dit, on n'a pas de chance avec le calendrier. Peut-être qu'on était aussi à l'Euro 2024 l'une des meilleures nations, mais on est tombé en quart contre l'Espagne, etc. Donc c'est, en fait, on n'avance pas.
Voilà pour la vieille légende qu'on verra sur ce mondial. Votre révélation. Mouillez-vous les amis, quel est le joueur que vous voyez éclater dans ce mondial? Je commence avec toi, Edgar. Ton favori, Edgar? Alors, moi, je ne vais pas demander ton favori. Hein. C'est l'Espagne, on est d'accord?
Mon favori, non mais j'étais d'accord, c'est l'Espagne. Mais la seule chose qui m'inquiète avec l'Espagne, c'est les blessés, les états de forme. Et notamment Nico Williams. J'ai du mal à me dire que Nico Williams va arriver et faire un mondial de dingue alors qu'il a passé toute la saison blessé, enfin les allers-retours. Et même quand il jouait, il n'était pas à son niveau. Et ça m'inquiète parce que ça va apporter aussi plus de défenseurs sur Lamine Yamal. Je pense que Lamine Yamal, l'équipe va beaucoup se reposer sur lui alors qu'il va revenir de blessure. Alors oui, c'est une équipe avant tout collective, mais il y a des moments clés où tu auras besoin aussi que Lamine Yamal te sorte quelque chose du chapeau. Donc la blessure de Nico Williams, c'est son état de forme, ça me préoccupe plus que des incertitudes qu'on peut avoir à d'autres postes. Donc c'est le petit bémol pour moi que je vois autour de cette équipe, mais ça reste mon favori. Maintenant, après, pour la révélation, alors c'est pas une révélation en tant que telle, mais je pense que c'est le joueur qui peut éclabousser le mondial de son talent et surtout passer dans une autre dimension encore, c'est Nico Paz, parce que je pense que mine de rien, même si on connaît tous son talent, la grande majorité de la planète football ne l'a presque jamais vu jouer ou très peu vu jouer, et je pense que là il va jouer dans l'une des sélections les plus suivies.
Est-ce qu'il va jouer, c'est la question, très peu joué avec l'Argentine, c'est pas le choix numéro 1 de Scaloni pour remplacer Di Maria par exemple.
Je pense que c'est l'un des joueurs qui peut te sortir une belle Coupe du Monde. On sait qu'il va très probablement jouer avec le Real Madrid l'année prochaine. Donc, il a déjà ce grand transfert en vue. Et quand tu penses un petit peu aux joueurs qui ont été révélés, c'est des dans des Coupes du Monde, ouais. C'est des joueurs qui derrière sont partis dans des grands clubs, etc. Et moi, je me dis que tout est écrit pour avoir un joueur qui va avoir un rôle peut-être auquel on s'attendait pas, qui va éclabousser le mondial de son talent, qui va peut-être passer ce cap, qui va montrer enfin ce talent-là dans des matchs. Que tout le monde regarde, parce que tout le monde ne regarde pas le Como, et je pense que c'est peut-être le moment où tout le monde vraiment va voir le type de joueur que c'est avant de le voir en club.
Allez, autre révélation, ta révélation, Daniele.
C'est, moi aussi, c'est pas vraiment une révélation, mais je pense que ça pourrait être le mondial d'Hendrick, parce que si le Brésil il marche bien, c'est une équipe offensive. Lui, il m'a l'air d'être un garçon compétitif, je dis ça. Comment dire, c'est un diminutif de. Je pense qu'il a le caractère. Voilà. Je pense que ça peut être un joueur de grands tournois. Il est très jeune, je sais. Il y a Ryan aussi dans son équipe qui pourrait prendre un peu de lumière. Il y a Vinicius qui a bien joué aussi un match amical. Mais je pense qu'Hendrick, il a quelque chose qui pourrait effectivement briller dans une coupe comme ça.
Polo.
Ouais, j'en ai plusieurs, c'est
bon. Bah, déjà, c'est j'ai Diomandé très c'est clairement. C'est mon top 3.
Alors, j'ai Diomandé très clairement. Ouais. Si la Côte d'Ivoire va loin, c'est que Diomandé s'est installé dans l'équipe nationale et explose complètement. J'ai pas parlé de la Suisse, qui a une très belle, d'ailleurs, c'est même plus une surprise maintenant qu'ils sont en huitième de finale, mais si la Suisse va beaucoup plus loin, je pense que Manzambi, sera présent. Si l'Allemagne va très très loin, c'est qu'il y aura peut-être un petit Lennart Karl côté droit qui aura pris sa place à 17 ans, donc là je prends un énorme risque. Et puis si l'Algérie va très très loin, c'est parce que Maza sera présent, et voilà. Mais il y a sûrement des équipes d'Amérique latine, ils vont nous sortir des gamins de 18-20 ans qu'on connaissait pas, et qui vont faire leur
voilà pour Polo. Julien.
Ouais, Maza Diomandé, j'aime beaucoup, je suis tout à fait d'accord. Mozambi aussi, avec Polo. Moi, mon petit Nico O'Reilly, dont on a parlé tout à l'heure dans mon équipe type de la saison, il sera titulaire aussi avec Tourelle et pour une première Coupe du Monde. Ce sera très intéressant à suivre, surtout dans un rôle qui est pas un rôle facile non plus à endosser, je vais dire, à cet âge-là dans une Coupe du Monde. Donc ce sera vraiment intéressant. Et puis moi, j'attends beaucoup d'Ayoub Bouhadi, même si je suis très content qu'il ait choisi le Maroc pour lui, pour sa famille et tout. Je suis un peu déçu qu'il ait pas choisi la France, mais j'ai envie de voir déjà s'il va jouer, enfin beaucoup jouer ou pas beaucoup jouer. Mais j'ai hâte de le voir dans cette sélection marocaine qui promet beaucoup.
Bon, mais voilà, les amis, on a fait le tour pour cette Coupe du Monde qui démarre le 11 juin, vous le savez, à RMC.
Oui, je peux ajouter un homme ?
Bien sûr.
Non, un Italien ou deux noms peut-être qu'il faut qu'on garde.
Oui, non. Ben, il y a Volpato qui va jouer avec l'Australie. Et l'Australie, il vient d'échanger d'équipe nationale.
Ah ouais, celui-là,
c'est pas bien, ça.
Ah ouais.
C'est pas bien.
D'accord.
Bon, écoute, il est né en Australie, il a grandi en Australie.
D'accord.
Mais moi, je voulais ajouter le nom d'Arda Güler. Je pense aussi qu'il a la carrure, il a l'âge, il pourrait faire une grosse Coupe du Monde.
Bon, écoute, il y a aussi un homme.
Surtout quand on connaît son rôle avec la Turquie, qui est ultra important et qui lui permet là de montrer tout ce qu'il a comme talent dans l'expression.
Ouais.
Bon, il y a aussi le petit pépite mexicain, il n'y a que lui dans cette sélection, c'est Gilberto Mora, 17 ans, qui devrait arriver en Europe dès sa majorité, qu'on devrait découvrir si le Mexique joue au moins 4 matchs dans cette Coupe du Monde, et ça, c'est pas gagné. Merci les drôles de dames pour cette soirée. On va se plonger maintenant dans la
Turquie,
Coupe du Monde.
La Turquie, oui, c'est pas mal. Ouais.
La Turquie, ça joue aussi ce soir.
Très bonne génération.
Ouais, c'est bien la Turquie.
Chalouzoun et tout ça aussi.
T'en as mis 4 à la Macédoine du Nord, notamment un mauvais souvenir là aussi pour Daniele. Voilà les amis, c'était la dernière de la saison. Merci à vous 4, bien sûr. Maintenant on se plonge dans le mondial ensemble sur RMC. Lundi prochain, il n'y aura pas d'émission drôle de dame puisqu'il y a un match de l'équipe de France qui joue contre l'Irlande du Nord. Ça se passera au stade Pierre Mauroy à Lille dans un instant, justement dans l'after, le président lillois Olivier Létang avec Gilbert, Daniel, notamment de 22h à minuit. Restez à l'écoute RMC et bonne soirée à tous. Bye bye.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.